donc c'est d'autant plus appréciable. Nous remercions la ville de Clermont qui a mis cette belle salle à notre disposition. Et puis, merci à Pauline aussi, qu'on ne voit pas là-haut, mais qui est sur la régie. Et merci surtout à Gérard Charolois. Quand on l'a contacté pour lui demander de venir, il nous a répondu avec une grande gentillesse, une grande disponibilité. Spontanément, il a accepté. Donc voilà, il est là aujourd'hui. Il y en a parmi vous qui le connaissent, d'autres pas. Ceux qui ne le connaissent pas trouveront un homme d'une grande culture, d'une grande intelligence et avec un discours clair, un discours qui tranche très, très violemment avec les exercices de langue de bois auxquels on est habituellement confronté. Voilà. Et puis, je pourrais dire aussi que Gérard Charolois, c'est sa propre expression, est un homme de mieux. Son biocentrisme ne s'inscrit pas exactement dans le mouvement animaliste, mais si nous l'avons fait venir, c'est parce que justement nous pensons qu'il faut élargir la réflexion par rapport à cette cause-là. Il faut savoir dans quel type de société on veut s'inscrire à l'avenir, dans un monde qui est en totale mutation. Il faut penser à tout cela et il faut trouver un modèle de société qui laisse naturellement sa place à la cause animale. Je pense que Gérard Charolois est l'un de ceux actuellement qui ont cette sorte de pensée globale, qui sont justement susceptibles d'inscrire, de faire une place, une large place à la vie animale, à la vie des animaux, dans leurs idées, dans leurs pensées. Voilà, je vous laisse maintenant avec Gérard et on se retrouve tout à l'heure pour un débat. On fera circuler les micros, là. Voilà, à tout à l'heure.
Bien. José, merci pour ton accueil. Merci à la Griffe de m'avoir invité aujourd'hui à venir à Clermont-Ferrand. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui pour que nous échangions. Alors, comme toujours, vous savez, dans ce genre d'exercice, on commence toujours un petit peu par expliquer les choses, d'où on parle, de quoi l'on parle, pourquoi on parle. Et puis après, c'est vous qui allez parler et qui allez me poser des questions courtes pour que je puisse faire des réponses longues. Bon, pas trop besoin de chauffer la salle, elle est bien chauffée, ça va. Bon, alors, vous savez, partons de ce qu'il y a de plus simple. Partons de l'associatif. Il y a beaucoup d'entre vous qui font de l'associatif, qui viennent en aide aux animaux, aux chiens, aux chats et aux autres animaux d'ailleurs. Hein. Tout part de là d'ailleurs en général. Hein. Et puis, partant de l'associatif, on va s'intéresser après à ce que j'appelle l'éthique. L'éthique, ça veut dire quoi en grec ? C'est-à-dire le comportement, la morale, si vous voulez, ce qui commande notre vie. Et pour moi, dans une conception qui n'est pas marxiste, je pense que l'éthique, c'est l'infrastructure du droit, de la loi, de ce qui régit la société et de ce qui fait le politique. Le politique est fruit de l'éthique. Alors on va voir pourquoi, quelle éthique on veut définir. C'est de ça dont je voudrais vous parler, mais rassurez-vous, ça va être très simple et j'ose espérer très clair. Alors, beaucoup d'entre vous s'intéressent aux animaux. Et en effet, moi-même, dans mon enfance, j'ai toujours aimé les animaux. J'aurais jamais fait de mal, au contraire. Et j'ai même toujours pensé qu'il fallait leur faire du bien. Et je me suis dit, mais pourquoi, au fond ? Parce que, comme disait Sartre, qui s'est beaucoup trompé, il a passé sa vie à se tromper, bien que ce soit une grande intelligence, mais il faut se méfier des intellectuels, méfiez-vous-en toujours, hein. Parce que bien que ce soit un des plus grands philosophes du XXe siècle, il a trempé dans toutes les erreurs du XXe siècle. Eh bien, néanmoins, quand je délibère, les jeux sont faits. Alors, si les jeux sont faits, pourquoi est-ce que j'aime les animaux ? Eh bien, tout simplement parce que, avant même de le savoir, je raisonnais comme Jeremy Bentham, vous savez, qui est un philosophe de la fin du XVIIIe siècle, qui posait cette question toute simple. Les animaux ne sont pas capables de parler. Sont-ils vraiment capables de penser ? À l'époque, on ne le savait pas. Mais ce dont je suis sûr, disait Bentham, c'est qu'ils sont capables de souffrir. Et dès lors qu'ils sont capables de souffrir, rien ne justifie qu'on leur impose des souffrances. Parce que le béaba de la morale la plus élémentaire, celle que comprend un enfant de 6 ans, c'est qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous. Donc, si on n'a pas envie de recevoir un coup de pied, si on n'a pas envie de recevoir un coup de bâton, pourquoi donner un coup de bâton, un coup de pied à un chien, à un cheval, à un chat, ou à un renard, ou à n'importe quoi? Ce sont des êtres vivants, donc des êtres qui ressentent comme nous le principe du plaisir des plaisirs. Donc, il n'y a aucune raison de les soumettre à la souffrance. Ça, c'est de la morale, c'est de l'éthique élémentaire, que même un enfant peut comprendre. Un enfant, oui, mais pas un tauromaniaque ni un chasseur. On peut se demander pourquoi, d'ailleurs. Ça, ils ne le comprennent pas. C'est assez étonnant, quand même. Ils ne comprennent pas qu'une pique qui déchire des chairs, que des balles qui broient des os, ça fait souffrir. Alors, si on pense que cette souffrance est utile, si on pense qu'elle est nécessaire, on peut en débattre. Cette souffrance est utile, elle est nécessaire. C'est ce que pense le chasseur, le pygmée, en Afrique, au Gabon. C'est ce que pensent certains Indiens d'Amazonie qui pratiquent la chasse pour se nourrir. Eux, ils pensent que c'est nécessaire, puisqu'ils se procurent leur alimentation comme cela. Mais dans nos pays européens, où on a surabondance de nourriture, on peut se dire, mais à quoi bon? À quoi bon occasionner à un être sensible de la souffrance? Et j'emploie le mot souffrance, parce que j'ai connu des tergiversants qui nous disent, oh, l'animal, il souffre pas. L'animal, il ressent la douleur, certes. La douleur au sens du le système nerveux, ça c'est indéniable, parce qu'il couine. Et s'il couine, parce qu'il a mal, c'est qu'il ressent la douleur. Mais il ne ressent pas la souffrance, parce que la souffrance, c'est une notion, en quelque sorte, de prise de conscience du fait qu'on souffre et qu'on va souffrir. Je ne suis absolument pas d'accord. Et tous ceux qui ont connu des animaux, qui ont fait de l'éthologie basique, tout simplement qui ont vécu avec un chien, un chat ou n'importe quoi, en général on vit plus avec un chien et un chat qu'avec un chimpanzé, hein. Mais bon, c'est vrai aussi, on sait très bien que l'animal non seulement ressent la douleur, mais il ressent le stress, l'angoisse, l'inquiétude, la peur. Hein. Il appréhende le mal, il ne fait pas que le ressentir, il sait que il va avoir mal ou que ça peut lui faire mal. Il peut avoir peur. Il a donc une conscience de la douleur. Et c'est pour ça que je dis que l'animal ressent non seulement la douleur, mais aussi la souffrance. Alors beaucoup vous diront, vous occupez de choses bien subalternes. Qu'allez-vous discutailler de la souffrance des bêtes alors que l'homme va si mal? Il y a tellement de malheurs dans ce monde. Vous y pensez à tout ce qui fait souffrir les gens autour de vous, et puis par-delà, autour de vous, dans le monde entier, les guerres, les génocides, les massacres, la misère, la pauvreté, etc., etc. Ça ne manque pas. Alors je vous dirais une chose, c'est que la souffrance des uns n'atténue en rien celle des autres. Je ne crois pas à la valeur rédemptrice de la souffrance. Ce n'est pas parce que vous allez compatir à la misère d'un chat dans votre quartier que vous allez être indifférent à la misère de quelqu'un au bout du monde. J'allais dire, c'est même le contraire. Le poète romantique Lamartine l'avait dit très brillamment au XIXe siècle, l'homme n'a pas de cœur, un pour l'animal et un pour l'homme, il en a un ou il n'en a pas. Donc, où vous ressentez la détresse d'un animal quand il est confronté à la souffrance, ou vous ne la ressentez pas. Et il est fort probable que malheureusement, si vous ne la ressentez pas, vous ne la ressentirez pas pour les hommes. Bonne expérience personnelle, puisqu'il se trouve que depuis 40 ans, j'exerce la profession de magistrat, m'a enseigné que parmi les grands tortionnaires d'êtres humains, on trouve presque toujours, des gens qui, dans leur enfance et dans leur jeunesse, ont torturé les animaux. Je me souviens d'avoir jugé un homme il y a une trentaine d'années déjà, parce qu'il ébouillantait son codétenu dans la cellule où il était. C'était son jeu. Ils avaient une petite bouilloire, ils faisaient bouillir de l'eau et ils le brûlaient dans le dos. Cet homme était en prison pour des méfaits divers et j'avais eu à le juger pour ses actes de cruauté sur son codétenu. Et dans le dossier, j'apprends que cet individu, son passe-temps, c'était d'enfoncer des tiges métalliques dans des pigeons vivants ou de torturer des chats. J'ai estimé que cet homme était dangereux et je me souviens de lui avoir fait mettre la peine maximum qu'on pouvait prévoir pour ce genre d'infraction. Et ce personnage a fini par purger sa peine, parce qu'il n'y a pas de peine perpétuelle chez nous. Et 10 ans après, il est passé aux assises de la Dordogne pour avoir tué un homme à coups de hache. Donc, si vous voulez, c'est une petite histoire, c'est une anecdote. Mais c'est pour vous montrer que sociologiquement, il y a des études statistiques là-dessus. aussi bien en France qu'aux États-Unis, qui montrent que les serial killers, comme on dit en anglais, ceux qui aiment tuer, qui ont la passion de tuer, sont des gens qui se sont souvent entraînés sur les animaux. Et la violence à l'égard des êtres humains et la violence à l'égard des animaux sont étroitement liées. Donc, l'animal, être souffrant, être vivant, être sensible, la loi désormais le reconnaît, les animaux sont des êtres sensibles. Même notre législateur, qui est loin d'être progressiste, est loin d'être à la pointe du combat pour le biocentrisme, même notre législateur l'a écrit dans nos lois, malgré la force des lobbies qui sont contraires à tout ça et qui ont protesté en disant comment vous allez écrire ça? Alors nous, les chasseurs, qu'est-ce qu'on va devenir si l'animal est un être sensible? Et nous, les éleveurs, comment va-t-on faire pour créer nos usines à viande si vous dites que l'animal est un être sensible quand il y a une porcherie avec 3 000, 4 000, 5 000 porcs entassés, attachés, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc, les syndicats agricoles et les divers lobbies sont intervenus auprès du Parlement français pour dire n'inscrivez pas dans la loi que l'animal est un être sensible. Néanmoins, le législateur français l'a écrit. Donc, c'est vous dire que c'est peu contesté et c'est maintenant une évidence. Seulement, on n'en a pas tiré les conséquences. L'animal est un être sensible, mais on continue à lui faire subir des actes de cruauté. Voilà. Alors ça, c'est un problème. Et pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société, chers amis, qui n'est pas en crise, contrairement à ce que vous entendez à longueur de journée et de journaux et de journaux télévisés. Ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas la crise de la représentation, ce n'est pas la crise de la démocratie, non. C'est autre chose qui est à la fois plus profond. Nous sommes dans une société en mutation. Et pourquoi nous sommes dans une société en mutation ? Parce que ce que vous pensez, là on parle aujourd'hui du vivant, on parle de l'animal, on va parler dans quelques instants de la nature. Ce que vous pensez de cela, ou ce que vous pensez de tout autre sujet, moi je ne sais pas, de la place de l'enfant dans la société, de la place de la représentation du politique, de la place de la personne âgée, des rapports humains, des rapports de couple, etc. Tout ce que nous pensons est fruit de connaissances que vous avez accumulées. Vous avez appris beaucoup de choses sur divers sujets. Et en fonction de ce que vous avez appris, vous faites un jugement. Et en fonction de ce jugement, vous adoptez un comportement individuel. Or, depuis 100 ans, nos connaissances ont été bouleversées, complètement bouleversées. On écrirait des bibliothèques entières avec ce que les penseurs, les philosophes, les essayistes du XIXe siècle ne pouvaient pas savoir. Et qu'est-ce qu'on a appris ? La génétique nous a appris que nous sommes très proches des autres animaux. 99% de notre génome humain